CFM.
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 À qui le tour ?
17h30, 19h.
CFM.
Allez, 18h02, la suite d'Aquil Tour avec notre invité, il est déjà en studio.
Eh ben oui, il s'agit de Philippe Baquet, auteur ou plutôt coordinateur de l'ouvrage La bio entre business et projet de société. Il nous expliquera en quoi justement il a été le coordinateur de ce livre qui sort aux éditions Agon. Philippe Baquet, il est ce soir, dans une petite heure maintenant, à 19h, Faubourg-la-Capelle, à Montauban, à la librairie La Femme Renard, pour une conférence autour de ce thème de la bio entre business et projet de société. C'est vrai que nous-mêmes, hein, sur CFM Radio, on en parle très très souvent de la bio, des AMAP, de l'agriculture. J'allais dire raisonner, mais oui,
L'agriculture devrait être raisonnée.
Voilà.
Il n'y a aucune agriculture qui s'auto-proclame irraisonnable. Ouais.
Mais voilà, au milieu de tout ça, depuis quelques années, la bio prenait une sorte de place avec une sorte de label très qui est devenu très angélique, mais il se cache parfois derrière des produits bio, bien de l'agriculture intensive aussi finalement, et puis des trajets qui font tout le tour de la planète, donc qui sont pas très respectueux finalement de l'environnement. C'est de tout ça qu'on va parler de votre ouvrage. Merci d'être là d'abord, Philippe Baquet.
Merci à vous de m'inviter aussi.
Et puis ça commence dans un petit moment, un petit peu de musique, et puis on va rentrer en conversation autour de ça.
Oui, puis on restera dans le livre également avec Hugues Dedi, qui nous présentera une BD pour les jeunes, Zoo Cosmique de Jérôme Noirez.
Voilà, ce sera vers la fin de cette demi-heure.
On commence en musique, comme tu le disais, A Better Life, Célia Schneider.
I am in front of you, you look me in the eye, you never speak the truth, you were stained, smell like wine, better lie, you're gonna have to find a better one for a better life. Give me your best excuse, this is the life you choose. Dancing in noisy bars, looking for fancy cars. A better life, you're gonna have to find a better one for a better life. You were mine before you spent so many nights with those guys. There are so many I could die, but it's fine. And I will take a chance to hear you say that I'm your favorite one. We had some good parties, what about good memories? Questions in one good eye, answers in the other one. A better life, you're gonna have to find a better one for a better life. You are mine before you spend so many nights with those guys. There are so many I could die, but it's fine. And I will take a chance to hear you say that I'm your favorite one. In front of you, you look me in the eye, you never speak the truth, you're there, smell like wine, better lie, you're gonna have to find a better one for a better life. You are mine before you spend so many nights with those guys. There are so many I could die, but it's fine. And I will take a chance to hear you say that I'm your favorite. Hear you say that I'm your favorite one.
Better Lie, il s'appelle Célien Schneider.
Allez, des personnes qu'on reçoit des fois en studio, il faudrait 10 minutes rien que pour les présenter, donc on va faire vite hein, sur la bio de Philippe Baquet, journaliste indépendant, collaborateur du monde diplomatique, de Politis, de Silence, auteur de très nombreux films documentaires, donc Carnet d'expulsion de Saint-Bernard à Bamako, L'Eldorado du plastique, Le beurre et l'argent du beurre, lequel de ces documentaires ou de ces ouvrages que vous avez écrits a le plus retenu l'attention du grand public et vous a le plus mis sur le devant de la scène, Philippe Baquet.
Ils ont tous eu leur vie, ils ont tous eu leur vie propre qui correspondait aussi à comment dire des mouvements, des mobilisations. Voilà. Parce que le premier c'était suite, c'était sur les sans-papiers, c'était toute une série de films sur les migrants en Europe. Voilà, donc c'est, et souvent mes films sont distribués dans des réseaux d'associations, alimentent des circuits de débats et de conférences, voilà, certains passent à la télé, certains à Arte ou France 2, mais pour moi c'est pas le but quoi. Le but c'est plutôt qu'ils soient projetés en public et qu'ils alimentent des échanges.
Voilà. Alors, et ce soir, vous êtes à La Femme Renard pour présenter une conférence autour de la bio entre business et projet de société. C'est un ouvrage que vous venez de terminer. Alors, je disais en ouverture de l'émission, vous avez coordonné. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont participé à
ce livre. Oui, on est huit auteurs. C'était une volonté dès le départ, que ce soit un ouvrage collectif. Ce sont des journalistes, comme moi, qui ne suis pas du tout un spécialiste de la bio à la base. Ce sont des paysans, Pierre Besse qui est maraîcher dans la banlieue toulousaine, Patrick Herman qui est sur le Larzac, une sociologue, Sylvia Pérez-Victoria, et un militant qui a beaucoup œuvré dans le domaine, pour notamment dans le commerce équitable, Michel Besson, qui est responsable du réseau Minga.
Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir dans cette direction-là? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille autour de cette bio et de cette bio qui devient intensive finalement?
Alors, il faut pas dire que c'est toute la bio qui devient intensive. C'est une partie de la bio qui est en train de prendre une voie totalement opposée aux principes de base de la bio. Alors, le débat, c'est savoir est-ce que c'est une partie de la bio ou est-ce que c'est la bio qui est récupérée? Moi, je pense que c'est plutôt des secteurs comme la grande distribution, les énormes coopératives agricoles et même les multinationales comme Monsanto qui fait maintenant des semences bio, qui ont à un moment donné compris que la bio pouvait être un marché rentable. Et comme ils n'aiment pas ces gens-là, que aucun marché ne leur échappe, et donc ils sont investis dedans avec leurs techniques. Mais autrement, la bio telle qu'elle existe toujours, celle qui est née dans les années 70, notamment en France.
Celle qui est idéologique et qui se veut dans le respect à la fois des hommes et de la nature.
Voilà,
et donc pas forcément en mettant le profit en avant.
Voilà, bien sûr. Nous, on fait référence dans le livre, moi je fais référence chaque fois dans les conférences, à une charte qui est celle de l'IFOAM, c'était l'Organisation Internationale de la Bio, qui en 1972 avait adopté une charte donnant les grands principes d'une agriculture bio que les fondateurs souhaitaient. Donc c'était une agriculture biologique respectueuse de normes agronomiques techniques très strictes et surtout respectueuse de principes sociaux, environnementaux et on peut dire politiques. Ce qui n'est absolument pas du tout le cas aujourd'hui de par exemple la réglementation européenne, parce que la bio, on est passé d'une bio militante on peut dire ça comme ça, à une bio un peu plus institutionnalisée, notamment avec la certification et la réglementation européenne, qui, elle, ne comprend que des techniques, des principes techniques à respecter et qui sont de plus en plus controversés.
Voilà, il y a d'autres certifications comme, c'est pas AB justement, on en a...
Écocert.
C'est pas Écocert.
En Europe, il n'y a qu'une seule certification bio qui est basée sur la réglementation, le respect de la réglementation européenne. Écocert, c'est un organisme certificateur, c'est une société commerciale qui cherche son profit. C'est même une multinationale maintenant.
Non, mais alors c'est pas celle-là que je cherchais. C'est une association qu'on a rencontrée d'ailleurs lors de la foire bio.
Nature et Progrès.
Nature et Progrès.
Oui, Nature et Progrès.
C'est dans une autre démarche.
Ah, totalement. Oui. Nature et Progrès est à l'origine justement. La charte dont je parle de l'IFOAM adoptée en 1972 a été très largement inspirée par Nature et Progrès. Et tous ces principes dont je parlais, je vais pas te donner le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est le respect du social et surtout une agriculture paysanne de petite taille basée sur la proximité, un commerce équitable. Déjà en 72, il était question de toutes ces notions. Et Nature et Progrès existe toujours. Une partie des militants, des paysans de Nature et Progrès ne reconnaissent pas la réglementation européenne, donc ils ne sont pas certifiés bio, mais ils ont une mention, une marque qui s'appelle Nature et Progrès, qui fonctionne un peu différemment. Voilà, c'est notamment pas d'organisme certificateur, mais tout est basé sur la confiance.
Donc le vrai problème aujourd'hui, finalement, Philippe Baquet, c'est cette certification bio qui est européenne et qui est dans lequel on met tout et n'importe quoi, dans lequel le consommateur lui-même croit faire finalement un geste sain pour son corps et peut-être pour la planète, mais il est floué à l'arrivée.
Alors, on peut dire ça comme ça. Moi, je dirais que, voilà, c'est pas forcément la certification bio qui est en cause, puisque là, tout à l'heure, vous me demandiez comment j'en étais venu à ce livre. J'avais fait un travail initial qui parlait du commerce équitable. C'était un film qui s'appelait Le beurre et l'argent du beurre, qui a énormément circulé, et qui était un regard critique sur ce qui était en train de devenir le commerce équitable, notamment avec Max Avelard et tout ça. Donc, je pense qu'on pourrait généraliser ce qui se passe dans le commerce équitable et dans la bio à l'ensemble de du marché, du commerce, de la société dans laquelle on vit, qui fait de plus en plus appel à des certifications, labels qui sont souvent même tout à fait fausses. Donc c'est aussi basé sur un besoin qu'ont les consommateurs de plus en plus, et on les dirige très souvent vers là, d'avoir une croyance en quelque chose et d'acheter les yeux fermés. On voit un label, donc on va plus se poser de questions, on achète, puis le lendemain on voit un autre label. Et puis, par exemple, dans les grandes surfaces, on peut voir des produits avec 3, 4, 5 labels qui se superposent et qui ne sont pas des labels, parce qu'en France, il n'y a que 3 labels officiellement reconnus.
AB.
Il y a le label AB, label il y a le rouge. Label rouge, et il y a les appellations d'origine contrôlée.
Voilà. Alors, en quoi, finalement, la bio vous gêne aujourd'hui dans ce qu'elle est devenue ou dans ce qu'elle est en train de devenir, Philippe Baquet?
Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé, enfin dans le livre, donc il y avait un besoin qui était très présent dans l'ensemble du monde de la bio. Hein. Le monde de la bio, c'est aussi bien les paysans que les consommateurs et tout le milieu un peu militant qui gravite autour. Donc d'avoir des informations sur cette bio industrielle intensive qui est en train de se développer, notamment par le biais de la grande distribution. Donc il fallait se rendre sur place. Moi personnellement, je me suis rendu en Colombie, en Andalousie, au Maroc, en Turquie, d'autres auteurs sont allés en Bolivie, au Maroc aussi, et d'autres en Palestine, Israël.
Vous êtes allé voir des exploitations
en Italie,
bio, comment elles fonctionnaient.
Voilà, voir un peu qu'est-ce que c'était que cette bio d'importation, parce que ce qui se passe depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y a une énorme demande de produits bio en France. La production française n'arrive pas à la satisfaire, pour tout un tas de raisons, notamment la bio n'est pas assez aidée et n'est pas assez encouragée, en mon avis. Pas forcément que la bio, l'agroécologie, c'est une appellation plus large, qui échappe au domaine de la certification. Donc, il fallait aller voir sur place ce qui se passait, notamment l'huile de palme bio, qui se retrouve dans tous les produits transformés, dans quelles conditions elle était produite en Colombie. Bon, j'y suis allé. Effectivement, les familles très puissantes de propriétaires terriens qui ont le monopole de cette huile de palme bio sont des gens liés aux paramilitaires qui sont pas du tout respectueux du social. Après, moi, je suis allé enquêter en Andalousie dans la plus grande exploitation de fraises bio qui se trouve à Huelva, 500 hectares de fraises bio situées en plein cœur d'un parc naturel dans lequel normalement il n'est interdit de construire aucune serre. Qui est basé, alors c'est là pareil, c'est du hors-sol. Et la nouvelle réglementation permet tout un tas de, d'interprétations qui vont toujours dans le sens de cette bio-industrielle.
J'ai même lu qu'il pouvait y avoir des résidus d'OGM finalement.
Un
petit pourcentage, genre 0,0 quelque chose.
0,9%, voilà, 1%.
D'OGM.
Ce qui est une aberration quand on sait que la plupart des gens, des initiateurs, des historiques, enfin des gens qui ont mis en place la bio, se sont battus, ils se battent encore contre les OGM. Donc ça, c'est le résultat direct d'une pression des lobbies à Bruxelles lors de l'adoption de la réglementation en 2009. Voilà ce qu'est en train de devenir la bio. Enfin, avant, c'était les paysans qui décidaient des cahiers des charges. Maintenant, ce sont des techniciens à Bruxelles.
Et voilà. Ils arrivent à produire autant, parce que pendant très longtemps, les agriculteurs qui font des grandes exploitations et qui font de l'agriculture intensive disaient que de toute manière, la bio, c'était pas viable parce qu'on n'avait pas des bons rendements. Finalement, ils arrivent aujourd'hui aussi à avoir des rendements similaires.
Bien sûr. Bon, il y a pas mal d'agronomes qui sont impliqués là-dessus. Notamment, il y a un livre de Monsieur Dufumier là qui vient de sortir, qui explique donc justement l'évolution des techniques de la bio, qui sont aussi des évolutions en progrès, en devenir, pas forcément basées que sur des techniques héritées du passé. Mais le problème, c'est qu'effectivement, chaque fois, on essaie de dénigrer l'agriculture bio. Et moi, je mets pas que l'agriculture bio certifiée. Je mets l'agroécologie. On n'aura pas le temps de développer ce sujet. Mais je disais tout à l'heure, il y a un film à 20h40 dans la continuité de ma conférence. Donc, c'est une société coproduite par la librairie de la Femme Renarde et Arte. Il y a le film Marie-Monique Robin, la réalisatrice du monde selon Monsanto, qui s'appelle Les Moissons du Futur et qui justement explique et montre la richesse de cette agroécologie. Donc, effectivement, beaucoup de gens se battent aujourd'hui pour que cette agroécologie, enfin, soit encouragée dans l'ensemble des États de la planète. Mais par contre, ce qu'on dit rarement, c'est que l'agriculture intensive chimique, elle n'est pas viable du tout, puisqu'elle conduit premièrement, on l'a vu en France, à la disparition du monde paysan depuis la fin de la dernière guerre mondiale. Avant, il y avait 4 millions de paysans en France. Maintenant, il n'y en a plus que 400 000, 450 000, on ne sait plus, mais il y a 300 fermes qui disparaissent chaque semaine. Donc, cette agriculture s'est accompagnée de la disparition d'un monde et qui a été remplacée par des techniciens, par des coopératives agricoles au service des multinationales. Donc cette agriculture pollue la planète, participe à la disparition du monde paysan et n'est absolument pas du tout viable.
Philippe Baquet, on marque une petite pause, un petit peu de pub, il faut bien vivre, et puis on revient dans un instant pour continuer notre conversation. Je rappelle que vous êtes ce soir à partir de 19h à la librairie La Femme Renard avec votre livre La bio entre business et projet de société, et que vous y donnez donc une conférence.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs, CFM, 17h30, 19h, à qui le tour, la vie des pays.
Aujourd'hui, sur la planète, avec l'agriculture intensive, bon, ben, on pollue, on sous-paye les gens, on fait disparaître l'agriculture paysanne, d'accord? Mais si on remplaçait cette agriculture chimique par une agriculture biologique, même si elle faisait la même chose en sous-payant les gens et en continuant de faire disparaître l'agriculture paysanne, est-ce que ce serait quand même un mieux ou pas selon vous?
Alors effectivement, on peut le voir sous différents angles. On peut se dire que c'est moins pire. Effectivement, 15 000 hectares de soja bio en Brésil valent mieux que 15 000 hectares de soja OGM bourré de pesticides. Mais après, si on s'arrête là, cette bio-là intensive participe à la destruction aussi du monde paysan, qui est la seule solution, pour moi en tout cas, de pouvoir nourrir un jour la planète, d'arrêter le massacre des paysans. Mais si, en Amérique latine, il s'agit bien d'un massacre de paysans et on leur vole les terres pour faire des monocultures.
On parle souvent en Inde.
Voilà, mais on n'arrête pas de chasser en Inde. On chasse des millions et des millions de paysans chinois. Enfin, voilà. Et donc, alors, je prenais l'exemple des 10 000 ou 15 000 ou 20 000 hectares de soja OGM au Brésil parce que c'est pas un exemple anodin. Cette bio intensive qui se développe. Alors, en France, par exemple, les énormes coopératives agricoles, qui par ailleurs sont les chantres des OGM et du chimique, du tout chimique, ont investi la bio et en ce moment, ce sont elles qui se font une guerre commerciale pour occuper la première place de la production de poulets bio pour les supermarchés, puisque c'est les poulets, les œufs et le lait qui sont les premiers produits vendus en supermarché. Donc, ils se sont investis et ce sont des millions et des millions et des millions de volailles. Ces types d'élevage sont permis par la nouvelle réglementation.
C'est poulet bio, mais c'est quand même
c'est du poulet intensif en batterie.
C'est de la batterie bio quoi.
On peut trouver maintenant des élevages de 80 000 ou 90 000 volailles en bio. Et comme cette intensification de la population de volailles induit forcément des risques sanitaires, donc on peut couper le bec maintenant en bio des poulets, on peut leur injecter des vaccins et les traiter avec des traitements chimiques allopathiques. Et bon, et voilà. Et en fait, les coopératives, elles, les paysans ne sont plus des paysans. Ça s'appelle l'intégration, le système d'intégration. Les paysans ne sont plus des paysans, mais deviennent des sous-traitants totaux, pieds et poings liés, puisque les crédits sont apportés par la coopérative et le Crédit Agricole. Donc ils commencent leur carrière en étant hyper endettés, et après ils sont obligés déjà de vendre toute leur production à la coopérative, qui l'achète au prix qu'elle veut. Et voilà. Et aussi, alors je pourrais encore m'étendre là-dessus, mais par contrat aussi, et je vais revenir au soja bio vite, les paysans sont obligés d'acheter toute leur alimentation à la coopérative qui les tient dans le creux de leurs mains. Et cette alimentation, comme ces coopératives, elles savent faire quelque chose dans le chimique, c'est-à-dire élever des poulets en les nourrissant de maïs et de soja, et ils refont exactement la même chose dans le bio. Donc les poulets bio sont nourris avec du maïs, alors du maïs on n'en manque pas dans le sud-ouest de la France, et le soja est importé. Il est importé d'où ? De pays comme le Brésil, par exemple, où dans l'état du Mato Grosso, on assiste à de la déforestation massive de la forêt primaire, et rien n'empêche, dans la réglementation européenne aujourd'hui, de vendre du soja bio qui a été gagné sur des terres, sur la forêt primaire.
Comment peut-on savoir, nous, en tant que consommateurs ? Alors je sais que dans les AMAP, par exemple, on aime parler de consommateurs. Donc justement, comment est-ce qu'on peut devenir acteur ? Comment est-ce qu'on peut savoir, quand on va finalement dans son supermarché, si le produit qu'on achète, bio, il est bon ou pas ?
Déjà, il faut, si possible, ne plus mettre les pieds dans les supermarchés.
C'est pas facile.
Non, mais ceci dit, enfin, moi, pour l'avoir expérimenté, parce qu'avant le livre, moi, j'étais un petit consommateur de bio, mais c'est vrai que j'allais encore dans les supermarchés et tout. Et le livre m'a personnellement pas mal remis en cause, et j'ai découvert qu'en fait on pouvait se nourrir pour pas forcément plus cher en allant sur les marchés, dans les biocoop ou les petites boutiques, ou en participant à des groupements d'achat. Mais seulement ça induit de remettre en cause aussi son type d'alimentation. Je parlais des poulets et de la viande. Déjà, rien ne dit, il faut arrêter de consommer autant de viande, parce que c'est toutes les terres du Sud qui sont aujourd'hui mises à contribution pour nourrir les élevages de poulets, de bœufs, de porcs de l'Europe. Donc ça, c'est déjà, il faut en finir avec ça, et c'est déjà en plus pas bon pour la santé. Donc arrêtez de manger autant de viande, arrêtez de manger autant de produits transformés. Tout à l'heure je parlais de l'huile de palme bio, on la retrouve par exemple dans les pâtes à pizza, dans les pâtes à tarte toutes faites qu'on peut acheter dans le supermarché ou ailleurs. Donc il faut mieux faire sa pâte à tarte soi-même, avec de la farine achetée à côté. C'est très vite fait. Moi, j'ai pris l'habitude. Et au moins, on est sûr que
dans cette pâte à tarte,
il n'y aura, non, c'est meilleur, déjà. Et on est sûr qu'il n'y aura pas d'huile de palme, bio, en provenance de Colombie, et qui aura participé à l'expulsion des paysans, des petits paysans colombiens.
Les lobbyistes sont en train de gagner au niveau de l'Europe. Est-ce que c'est réversible, le tableau un peu noir là que vous nous avez peint?
C'est pas un tableau noir, c'est le tableau du monde dans lequel on vit, quoi. Il faut arrêter d'abord déjà de se considérer comme consommateur, c'est-à-dire de n'exister que 2 heures par semaine quand on pousse un caddie ou quand on prend son panier en osier dans la biocoop. Moi, je me considère pas comme consommateur, je suis un être humain, même citoyen, tout ça. Bon, je suis un être humain et je me sens concerné par beaucoup de choses autour de moi. Donc c'est essayer de soi-même se forger une idée du monde dans lequel on vit et aller à la recherche d'informations. Et en ce moment, aujourd'hui, on vit dans un monde qui permet ça. Soit par les relations directes, en discutant, en écoutant CFM, ou en allant sur Internet, en lisant des revues, en participant à des mouvements. Enfin, on peut se trouver une autre information qui peut nous permettre de trouver de soi-même, devenir autonome par rapport à tout ce monde qui veut nous réduire à un rat de laboratoire.
Voilà, ben si j'ai bien compris, à la fin de cette conversation, Philippe Baquet, on peut plus faire confiance au label qui a écrit ce qui sont posés sur les produits, ça sert à rien.
Oui, oui.
Voilà, il vaut mieux connaître. Alors, on a la chance, c'est vrai. Allez, les Parisiens peuvent pas le faire, mais nous, on peut.
Oui, oui.
On habite un peu à la campagne quand même, donc on a tous un voisin qui est agriculteur ou qui a même une boutique. On en a beaucoup autour de Montauban, autour de Moissac, de Valence d'Agen, de Rodez. Il y a des boutiques à la ferme. On peut directement aller rencontrer les agriculteurs et acheter là.
Et puis si on n'a pas le choix et qu'on est obligé d'acheter des produits labellisés, on peut avoir le choix d'acheter des produits Nature et Progrès, Déméter, qui sont beaucoup plus exigeants. Et maintenant, il y a une autre marque qui s'appelle Biocohérence aussi, qui a été créée par la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique et qui est sur des bases beaucoup plus respectueuses de la bio initiale.
Voilà, et puis c'est vrai qu'il y a de plus en plus de magasins bio qui se montent. Un vieux magasin qu'on connaît bien et qu'on aime bien sur CFM, c'est Biosol. Ça, c'est peut-être le plus ancien du département. Le plus nouveau, c'est Biocop. Il y a aussi notre partenaire Coxibio. Enfin, il y en a plein des magasins bio dans lesquels on peut aller faire ça.
Il y a Base Bio aussi.
Et il y a Base Bio, il y a notre
qui vend des groupements d'achat, des produits de base.
Voilà. Et donc, faites confiance à ces gens-là, après tout. Merci Philippe Baquet d'être passé ici pour nous en parler. Je rappelle que dans une demi-heure, vous êtes à La Femme Renard. C'est une librairie qui est située Faubourg La Capelle, 115 Faubourg La Capelle, et que vous présentez La Bio entre business et projet de société. C'est aux éditions Agone. On va redonner aussi ce soir, donc 20h50 sur Arte, le documentaire de Marie-Monique Robin, Les Moissons du futur. Voilà, merci d'avoir été là.
Merci.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs. CFM, 17h30, 19h.